Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le mercredi 21 janvier 2026. On vit une époque formidable. Le chef de la première puissance mondiale joue à risque avec un glacier géant. Notre banquier japonais ferme boutique pour remanier son parlement. Et pendant ce temps, à Paris, on dégaine le 49-3 comme tous les 15 jours parce que ça fait bien longtemps que le parlement a été remplacé par un cirque. Si vous cherchez de la logique, passez votre chemin. Le merveilleux monde de la finance version 2026 commence très très fort avec un mélange savoureux de géopolitique, de cours de récréation, de mathématiques complexes, de lunettes de soleil et de Trump qui sera en retard à Davos parce que son avion est en panne. Rien n'a changé depuis hier. Trump continue de faire son show et ça a même l'air de s'intensifier. Aujourd'hui, tout le monde aura les yeux fixés sur Davos pour le grand discours du leader Maximo. Enfin, si son avion arrive jusqu'en Suisse, parce que ce matin, alors qu'il filait vers la Suisse justement pour donner sa leçon d'économie aux élites mondiales à Davos, le Boeing présidentiel a décidé de jouer la carte de la panne technique. Conséquence, demi-tour immédiat, Air Force One a dû rebrousser chemin vers les States peu après son départ pour le WEF. Pour une fois, le coupable n'est pas Emmanuel Macron et ses lunettes de Top Gun, mais un problème électrique mineur. À croire que même les circuits électroniques de l'avion saturent avec l'agenda géopolitique actuel. Mais rassurez-vous, le prix Nobel de la paix éternel est toujours attendu à Davos via un avion de secours. Du côté des marchés, on s'est donc bien fait défoncer. Pendant que des places de bourse comme Paris enquillent leur 7e séance de baisse consécutive, l'oncle Donald continue d'avoir des vues sur le Groenland et continue de nous sortir des punchlines de derrière les fagots du style « Vous verrez jusqu'où je suis capable d'aller au Groenland !» Pour être franc, je suis pas certain qu'on ait envie de savoir. Hier soir, le président Trump a décidé de faire une conférence de presse improvisée last minute pour fêter les 1 an de son accession au pouvoir. Honnêtement, on aurait préféré qu'il s'en abstienne parce que lorsqu'on écoute son discours, je ne sais pas ce qui fait le plus peur. Le fait qu'on écoute encore ce qu'il dit tellement c'est incohérent et le fait qu'on n'ait pas d'autre choix que de l'écouter parce que pour le moment, c'est lui qui dirige le monde et que c'est pas Maverick avec ses Ray-Ban qui va l'empêcher de foutre une merde monumentale sur la planète. Donc les nouveaux tarifs douaniers, les autres engueulades et autres discours méprisants ou humiliants par chaîne d'infos interposées ont fait craquer les investisseurs. Des investisseurs qui ont survécu à Liberation Day, survécu à soi-disant la bulle de l'IA, qui ont survécu à la guerre en Ukraine, au bombardement en Iran et aux 12 premiers mois de Donald Trump. Hier, c'en était trop. L'Europe a continué sur le chemin de la baisse comme elle l'avait fait lundi et les marchés US qui rattrapaient lundi de congé se sont fait massacrer. Un sell America again massif. Le S&P 500 a signé sa pire journée depuis octobre avec un joli moins 2,06%. Le Nasdaq a été intubé et mis sous oxygène et plongeait de 2,39%. Et même notre Bitcoin, notre or numérique, notre valeur qui était censé être la nouvelle valeur refuge des années à venir, s'est dégonflé de plus de 6% pour aller chercher les 87 700 dollars. On est clairement en mode risk-off. Et hier, les intervenants étaient en mode « sauf qui peut, mon pognon et mes investissements d'abord, pour ce qui est des femmes et des enfants, on verra plus tard ». Là, tout de suite, c'est chacun pour soi. Le « vous allez voir ce que vous allez voir » prononcé par le président américain a jeté un coup de froid « made in Groenland » sur les marchés. Il n'y a donc pas besoin d'avoir fait de hautes études pour comprendre ce qui se passe. Tout passe par un seul et unique mot « instabilité ». On sait que les politiciens qui nous dirigent sont à peu près tous des clowns, sans exception, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, tout à gauche ou tout à droite. Ils ne se surpassent que dans la nullité, le mensonge, les casseroles juridiques au cul et autres égos surdimensionnés. Mais en général, ils essayent au moins de s'entendre pour que les conneries qu'ils font à répétition ne se voient pas trop. Sauf que là, depuis 2 semaines, c'est open bar, tout le monde s'en va la vaisselle à la tronche, et même si les marchés ont fait preuve d'une résilience exceptionnelle depuis le début de l'année, hier, c'était trop. Même les Magnificent Seven se sont fait démonter et quand eux, ils baissent, c'est difficile de faire monter le reste. Hier, nous avons vécu la 6e séance en 3 mois où les 7 magnifiques ont tous fini dans le rouge. Et quand je dis rouge, je parle d'un rouge carmin, un rouge Ferrari, celui qui tâche et qu'on n'arrive même pas à enlever avec les produits miracles qu'on voit dans les pubs à la télé. Amazon s'est pris 3,4% dans les dents, Nvidia plongeait de 4,4% et même la merveilleuse IA n'y résistait pas. Et Musk est un peu moins riche depuis hier soir après la chute de près de 4% de chez Tesla. Alors pourquoi les investisseurs ont-ils fui les technos ? Eh bien parce que ces boîtes ont des valorisations basées sur un futur radieux et une croissance infinie. Sauf que dans un monde où l'on menace de taxer le champagne, les bagnoles allemandes et le luxe italien pour acheter un bout de terre glacée où il fait froid et nuit la plupart du temps, la croissance espérée est soudainement presque aussi crédible que le bilan de santé du président américain. Et puis alors, il y a l'obligataire. Et c'est peut-être là que ça devient vraiment drôle. Enfin, drôle si vous n'avez pas d'emprunt sur le dos et que la hausse des rendements ne vous concerne pas. L'histoire est donc la suivante et elle se rapproche de Game of Thrones. Un fonds de pension danois, probablement un peu agacé par l'idée de se faire racheter son île par Donald Trump et ses guignols de ministres, a annoncé qu'il liquidait 100 millions de dollars de bons du Trésor américain. Alors oui, bien sûr, j'en conviens, 100 millions de dollars dans un marché à 30 000 milliards, c'est une goutte d'eau dans l'océan Arctique. Mais c'est le symbole qui compte. C'est le signal que les alliés pourraient commencer à transformer leur dette américaine en arme de destruction financière massive. Conséquence immédiate, le rendement du 10 ans a bondi à 4,294%, son plus haut niveau depuis le mois d'août, et pendant un bref instant, il est même passé au-dessus des 4,3%. C'est donc là que j'ai envie de hurler et de taper des poings, parce que d'un côté, on a un gouvernement qui demande à Fannie Mae et Freddie Mac d'injecter 200 milliards pour faire baisser les taux immobiliers et aider les ménages, et de l'autre, on déclenche une crise diplomatique pour 3 morceaux de glace et un peu de neige, où il n'y a même pas de remontée mécanique, ce qui fait littéralement exploser les taux d'intérêt. C'est l'équivalent financier et économique d'essayer d'éteindre un incendie avec un lance-flammes. On ne peut pas vouloir des taux bas pour les électeurs et jouer au cow-boy avec les tarifs douaniers en même temps. La cohérence est visiblement en option cette année. En attendant, du côté obligataire, on surveillera le seuil des 4,5%. Pour l'instant, le rendement du 10 ans flirte avec sa moyenne mobile des 200 jours à 4,2%. Et si on touche les 4,5%, on changera de dimension. Et là, ça deviendra vraiment restrictif pour l'économie. Et le marché action pourrait sérieusement corriger. Et c'était clairement pas mieux en Europe, même si pour le moment les Européens jouent le rôle des gentils dans le film hollywoodien qu'on est en train de nous passer sur grand écran. À Paris, on était coincé entre les caprices de Washington et le sketch du budget de la France. Le CAC flirte avec les 8000 points, un seuil psychologique majeur. Le luxe est en PLS, parce que si on taxe les sacs à main pour forcer la main, ça risque de faire mal dans les bilans de fin d'année des géants parisiens qui vont finir par de vendre des sacs en plastique sur les marchés locaux. En prime, le rendement de l'OAT remonte à 3,53% à cause de l'instabilité politique liée au 49-3 de Sébastien Lecornu. Mais au moins, la France a un budget et Lecornu ne devrait pas tomber parce que les socialistes sont encore plus pourris que ce qu'on avait osé imaginer. Je sais que c'est ni le lieu ni l'endroit, mais on se souviendra quand même que ces pathétiques escrocs qui s'accrochent à un semblant de pouvoir avaient soutenu Lecornu parce qu'il s'était engagé à ne pas utiliser le 49-3 et que là, même après qu'il ait marché sur ses promesses, en accusant le reste du monde, les socialistes le soutiennent encore. Je sais pas comment ils peuvent encore se regarder dans une glace. Voilà, ça, c'est fait. En Allemagne, c'est encore plus drôle parce qu'hier, on a encore eu des bons chiffres économiques puisque le moral des experts, autrement dit, le ZEW s'envole à 59,6, mais le DAX recule de 1,08%. On attendait un petit 50 et paf, on sort un énorme 59,6 contre 45,8 le mois précédent. C'est un signal qui est donc massif, dont le jargon, quand le ZEW dépasse le consensus de près de 10 points, c'est que les analystes financiers ont décidé de voir la vie en rose. Mais le DAX baisse quand même. C'est comme si tu avais un bilan de santé parfait de ton médecin, mais que tu refusais de sortir de chez toi parce que tu as peur qu'un avion te tombe sur la tête. L'Allemagne est structurellement en train de se soigner, mais elle est l'otage d'une géopolitique de cour de récré. Enfin, selon les experts, ça vaut ce que ça vaut. Mais pendant que Macron et Trump sont en train de jouer à celui qui a la plus grosse armée et qui est celui qui tournera le volant en premier pour éviter le frontal, le vrai coup de poignard vient du Japon. La nouvelle première ministre, Sanae Takaichi, a promis des baisses d'impôts massives sur la nourriture pour gagner les élections. Les nouvelles élections, celles qui sont prévues le 8 février, et c'est là que le bât blesse. Le Japon possède 1200 milliards de dollars de la dette américaine, mais si les taux japonais s'envolent, le rendement du 40 ans a tapé les 4,24 hier, ils n'ont plus de raison d'aller acheter les bons du Trésor américain qui sont plutôt risqués, avec une dette hors de contrôle. Bon, ok, d'accord, et c'est pas mieux au Japon, vu que la dette culmine quand même à 260% du PIB nippon. Mais quand même, potentiellement, ça pourrait être la fin du carry trade et de l'argent facile. Si le Japon rapatrie son argent, le marché obligataire américain va ressembler au désert de Gobi, sans compter que les Européens pourraient profiter de l'occasion pour faire pression avec leurs investissements à eux qui sont parqués dans les bons du Trésor aussi. Pas besoin de vous faire un dessin, ça pourrait être le film d'horreur de l'année pour le marché obligataire mondial. Après ça, Trump aura l'air malin avec son drapeau planté sur le Groenland. Ce matin, l'Asie s'est donc réveillée avec une gueule de bois carabinée. Pour l'instant, on limite la casse et le Japon ne perd que 0,34%, alors que la Chine ne bouge pas. On est dans une ambiance de doute extrême, avec le doigt à 2 mm au-dessus de la touche sel. Mais heureusement, les futurs US remontent déjà et affiche une tentative de rebond en espérant que le vol Washington-Davos permettra à Trump de voir les choses différemment. En gros, c'est rouge partout, mais certains commencent à ramasser les miettes en espérant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Mais revenons deux minutes sur ce qui se passe au Japon, ou ce que l'on pourrait appeler un suicide fiscal, puisque la première ministre, Sanae Takaichi, vient de nous inventer le concept de brûler la maison pour se chauffer. L'idée, c'est de suspendre la taxe de 8% sur la bouffe pour 2 ans, et aussi pour gagner ses élections du 8 février. La facture se montera à 5 000 milliards de yens par an, soit 0,75% du PIB balancé par la fenêtre. En réalité, avec une dette à 260% du PIB, le marché n'a pas rigolé du tout. Robin Brooks, ex-Goldman Sachs, a parfaitement résumé le truc. Actuellement, le Japon est dans le déni. Résultat, les obligations japonaises se font massacrer, comme on vient de le voir, et pour l'instant, les autorités japonaises supplient les marchés de rester calmes. Mais c'est un peu comme demander à des passagers du Titanic de ne pas se bousculer vers les canaux de sauvetage. Du côté de la journée qui nous attend, ça risque d'être folklorique. Déjà, on rappellera que la Cour suprême doit toujours rendre son verdict sur les tarifs de Trump et que comme il botte en touche depuis 10 jours, ça peut arriver n'importe quand. Ensuite, il y a bien sûr Trump qui doit s'exprimer à Davos et de ce côté, on n'a pas fini de rire. Je crois que les comiques du monde entier vont se concentrer sur ce que Trump dira parce qu'à la fin de son one-man show, il y aura de la matière pour écrire un spectacle humoristique de 2 heures. Au moins. Ensuite, aujourd'hui, la Cour suprême, encore elle, entendra les arguments dans l'affaire Lisa Cook. Trump veut la virer de la Fed et elle résiste. Et si la Cour donne raison au président, l'indépendance de la Fed vaudra autant qu'une promesse électorale, c'est-à-dire autant que du papier toilette usagé et les marchés détestent quand on touche à l'imprimante à billets. On notera encore que la VIX, la volatilité, a bondi de 30%. Le dollar, lui, a glissé de 0,9%. Les investisseurs fuient les States comme si c'était une zone de conflit émergente. Comme le disent bien des analystes de la Deutsche Bank, l'Europe possède le Groenland, mais elle possède aussi 8000 milliards de dollars d'actifs américains. Méfiance donc, sans compter que Macron vient de demander des exercices militaires à l'OTAN et au Groenland et qu'il est prêt à envoyer la 7e compagnie pour donner un coup de main. Hier, on a assisté à ce que j'appelle le syndrome de la cour de récréation globale. Et quand le chef de la première puissance mondiale décide de jouer à risque avec le Groenland, les marchés, eux, ne jouent plus du tout. Et ça n'a pas l'air de vouloir se calmer aujourd'hui. Pendant ce temps, à Davos, Scott Bessent nous vend un rêve à 5% de croissance réelle pour 2026, soit le double des prévisions des experts. Son secret magique, c'est de faire miroiter 1 000 $ de remboursement d'impôts aux ménages pour booster la consommation. Le problème, c'est que la Fed voit 2,3% et même les bulls de chez Goldman Sachs plafonnent à 2,5%, restant très loin du miracle promis par l'administration Trump. Parfois, on se demande quel genre de drogue il consomme à la Maison-Blanche. Entre l'impact des nouveaux tarifs douaniers et une inflation persistante, ce 5% ressemble plus à une hallucination qu'à un scénario de base. Hier soir, Netflix a publié son 4e trimestre de 2025. On peut dire qu'ils ont assuré au T4 avec 12,05 milliards de chiffre d'affaires, ce qui représente une progression de 18%. Mais Wall Street boude car les prévisions du T1 sont moins sexy, entraînant une chute de 5,7% après la clôture. Le vrai drame shakespearien, c'est l'offre 100% cash pour dévorer les actifs de Warner Bros. Discovery, alors que Paramount tente une OPA hostile en parallèle. Wedbush a sabré son objectif de cours à 115 $ parce que l'incertitude liée à ses fusions-acquisitions frénétiques donne de l'urticaire aux analystes. Ceci dit, Netflix compte doubler ses revenus publicitaires en 2026, mais en attendant, les clients payent plus cher pour un catalogue encore amaigri par les grèves de 2024. Bref, entre les chèques de 50 milliards et le manque de contenu frais, le géant du streaming joue gros pour ne pas finir en simple figurant du secteur. Pour l'instant, l'objectif moyen des analystes reste au-dessus des 120 $ à 12 mois. Attention aux révisions de ces prochains jours, mais ça reste une performance future intéressante, surtout pour un titre qui va ouvrir à 82,75 tout à l'heure. Autre publication d'hier, 3M. Alors 3M a eu beau battre le consensus avec un bénéfice par action de 1,83 $ contre 1,80 attendu, le titre s'est pris une claque monumentale de 7%. Oui, parce que de nos jours, faire mieux que prévu ne suffit plus dans le cirque actuel. Le patron William Brown nous parle de rigueur opérationnelle, mais entre les ventes en Chine qui plongent et les secteurs électroniques et transports qui font grise mine, le moteur industriel a quelques ratés évidents. Le groupe promet une croissance de 4% et un bénéfice jusqu'à 8,7 $ pour 2026, une prévision qui semble bien courageuse quand on voit que la consommation mondiale commence à avoir le souffle court, un peu à la Scott Bessent ou à la Trump. C'est la leçon de l'histoire. Vous pouvez accélérer l'innovation autant que vous voulez. Si le climat macroéconomique décide de geler, même le roi du post-it et du velcro ne pourra pas recoller les morceaux de la confiance des investisseurs. En résumé, 3M a publié des chiffres solides, mais se fait balayer par la morosité ambiante, prouvant qu'en 2026, la microéconomie n'est qu'un détail face au chaos des tarifs douaniers et de la géopolitique. Néanmoins, La moyenne mobile qui passe par les 156$ semble offrir un niveau d'achat plutôt intéressant sur 3M. Pour la journée qui nous attend, nous aurons donc droit au spectacle de Trump à Davos. Inutile de vous dire que ça sera le centre de notre journée. Ça et les fions que les politiciens du monde entier s'envoient régulièrement depuis 2 semaines. Côté chiffres économiques, il y aura le PPI et le CPI en Angleterre et les pending home sales aux USA. Côté société, il y aura Johnson & Johnson ainsi que Halliburton qui publieront leurs résultats du trimestre. Ce matin, il y a Barry Calbo qui a fait mieux que prévu, sans aller vraiment mieux. Les volumes chutent de 9,9% et la demande reste molle. Mais le chiffre d'affaires grimpe quand même, plus 8,9% grâce aux hausses de prix. Moi, j'ai arrêté de manger du chocolat, peut-être que c'est ma faute. Résultat, 3,7 milliards au-dessus des attentes, moins de chocolat vendu, mais mieux margé, avec un petit coup de frein au Canada et une Europe toujours à la traîne. Guidance confirmée, mais semestre annoncé difficile. Barry Calbo tient par les prix, pas par la demande. Et ça, sur la durée, c'est jamais très rassurant. Ils ont également annoncé la nomination de Heinz Schumacher au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 26 janvier. C'est un ex de chez Unilever. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,32% et tout le monde attend Davos. On n'a pas fini de rire. J'espère que votre café et votre croissant vont vous réconforter. Reste à que votre journée soit belle. Et nous, on se voit demain pour la suite de la saison de Trump sur Netflix. Très bonne journée et à demain.